Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens du 15 février 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, il fait doux à l'extérieur. Est-ce que vous êtes venu en scooter ce matin?
On n'a pas le droit de rouler encore.
Oh non, c'est quoi la date?
C'est le 15 mars.
Le 15 mars. Bon, ben dans un mois, jour pour jour.
Et comme à l'habitude, le 15 mars,
La neige.
La neige. L'année passée, j'étais très content parce que le 15 mars, le 14 au soir, je m'étais tout préparé.
Oh, c'est vrai, c'était la tempête du siècle.
Pied ou un pied de neige.
Oui, la fin du monde, là.
Ouais.
Pour plusieurs personnes qui étaient prises sur, je me souviens plus, est-ce que c'était la 13?
Je pense que oui.
La 13 qui portait bien son numéro ce soir-là, malheureusement. Mais les années se suivent et ne se ressemblent
pas.
Peut-être que le 15 mars de 2018 sera excellent pour faire du scooter.
Oui, espérons, on verra.
Alors, mon cher, est-ce que vous avez préparé la chronique des éphémérides?
Mais certainement. Alors, laissez-moi vous divertir avec ce qui s'est passé dans l'histoire. Un 15 février, en 1612, à Neuville-sur-Vanne, en France, baptême de Paul Chomédé de Maisonneuve. C'est un nom qui me dit quelque chose.
Moi aussi. Voilà. Le fondateur de Montréal, peut-être?
Oui, le fondateur et le premier gouverneur de Ville-Marie. Donc, c'était son baptême, un 15 février. 15 février 1839, à la prison du Pied-du-Courant à Montréal. Plusieurs patriotes, dont François-Marie de Lorimier, sont pendus. En 1898, le cuirassé Maine saute dans le port de la Havane. 260 marins périssent, provoquant la guerre américano-espagnole. 1920, à La Haye, la Cour internationale de justice siège pour la première fois. 1950, Cendrillon de Walt Disney. C'est la première, en fait, de Walt Disney. Ça va bien. Aux États-Unis, c'était la première de Cendrillon.
Ah oui, de Cendrillon.
Voilà.
En quelle année?
En 1950. 1957, la fusion de la Fédération des unions industrielles du Québec et de la Fédération provinciale du Québec crée la Fédération des travailleurs du Québec en 1957. 1965, maintenant, toujours un 15 février, le drapeau à feuilles d'érable est déployé pour la première fois sur la colline parlementaire à Ottawa. 1968 à Grenoble, la skieuse canadienne Lindsey Green gagne l'or olympique. 1975, l'Union soviétique fait sauter une bombe nucléaire pour déterminer si cette technique peut servir au percement de canaux. Parce que, why not, comme disent les Russes? En 1996, le pétrolier libérien Sea Empress s'échoue au large du pays de Galles, répandant 65 000 tonnes de brut dans la mer. En 2001, à Montréal, quatre membres de la bande Rock Machine sont les premiers au Canada à être reconnus coupables de gangstérisme. En 2002, toujours un 15 février, on accorde une médaille d'or dans la controverse à David Pelletier et Janie Salé aux Jeux olympiques de Salt Lake City. 2003, des manifestations dans plusieurs grandes villes du monde ont lieu en opposition à une éventuelle guerre en Irak. À Montréal, on estime qu'il y avait 150 000 personnes qui défilaient ou qui ont défilé. Et en 2012, les députés de la Chambre des communes à Ottawa votent en faveur du projet de loi abolissant le registre des armes dépôt. J'allais dire registre, la bombe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mauvaise
blague. Oui, puis on dit beaucoup registre, mais c'est plutôt registre.
Registre, oui. Je vais corriger ma feuille devant tout le monde. Voilà, c'est fait.
C'est fait, bravo.
Merci. Naissance, pour ce qui est des naissances, nous avons Galileo Galilei. L'astronome italien est né un 15 février en 1564. Le roi Louis XV est né en 1710. Et
un 15 février.
Oui, c'est original. Hein?
Mm-hmm.
Peut-être pour ça qu'il a porté ce nom. Non, c'est pas vrai. Le facteur de piano Heinrich Steinweg, devenu Steinway. Un facteur de piano.
Ah, j'ai jamais entendu ça.
Terme. Est né en 15 février en 1797. Pour ce qui est des décès, Raymond Plante, l'écrivain québécois, nous a quittés en 2006. Et le chanteur américain Nat King Cole, qui était né, lui, en 1918, nous a quittés en 65.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et en une de la presse, massacre en Floride, il n'y a pas de mots. C'est une citation. Un tireur a ouvert le feu hier dans une école secondaire de Floride, tuant au moins 17 personnes. Le suspect, un ex-élève de 19 ans expulsé l'an dernier, a été arrêté. Le nom de famille. Pyeongchang 2018, patinage artistique, le bronze pour Duhamel et Radford. Les radars photos reprendront bientôt du service. Prestation d'invalidité, le Collège des médecins dénonce les abus des assureurs. Et à ce sujet, la chronique de Patrick Lagacé, décision d'assureur, entre parenthèses 2, comme deuxième partie. Un tireur a semé la mort à l'école secondaire Marjorie Stoneman Douglas hier après-midi à Parkland, dans le sud-est de la Floride. Au moins 17 victimes sont tombées sous les balles du seul suspect identifié jusqu'à présent, Nicholas Cruz, un ancien élève. L'homme de 19 ans a été arrêté quelques heures plus tard dans la localité de Coral Springs. Au moins 17 personnes ont été abattues hier, a confirmé le shérif du comté de Broward, alors qu'on ignorait toujours hier en fin de soirée l'âge et l'identité des victimes. La tuerie, l'une des plus meurtrières des 25 dernières années aux États-Unis, s'est produite un peu avant la fin des cours, vers 14h30, dans cette école fréquentée par quelque 3000 élèves. Le nombre de blessés n'a pas non plus été confirmé. « C'est un jour terrible », a lancé le shérif Scott Israel. « C'est catastrophique, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. » Pardon. Divers témoins ont rapporté aux médias que l'alarme incendie s'était d'abord déclenchée à la fin de la journée. « Nous avons commencé à évacuer. On pensait que c'était un exercice d'incendie », a rapporté une enseignante sur CNN. C'est ensuite que des coups de feu très rapprochés ont retenti dans les corridors de l'école. Après avoir fait 15-20 pas hors de la classe, on était à terre et on se cachait dans le placard, a poursuivi l'enseignante. Des dizaines d'élèves ont d'ailleurs aussi trouvé refuge dans des placards et des salles de classe. Des images captées par des élèves et diffusées sur les réseaux sociaux montrent des adolescents terrés sous des pupitres dans une classe alors qu'on entend clairement des coups de feu et des hurlements à l'extérieur. Né en 1998, Nicholas Cruz, le tueur, avait été renvoyé de l'établissement pour des motifs disciplinaires. Le directeur de l'école, Robert Runcie, a affirmé qu'à sa connaissance, aucune menace n'avait été proférée par le suspect avant le drame. Le jeune homme avait néanmoins publié des messages très alarmants sur les réseaux sociaux, ajouté le shérif Israel sans en préciser la teneur. Un cul-de-sac intellectuel et politique, c'est un énième lendemain de veille difficile aux États-Unis alors que la Floride se réveille avec 17 morts au terme d'une tuerie dans une école secondaire de Parkland. Ce sombre bilan en fait l'une des pires commises sur le sol américain depuis 25 ans. Le débat enflammé sur le contrôle des armes à feu trouvera-t-il une issue? Deux experts sont peu optimistes. Je ne crois pas que ça dise grand-chose aux Américains, tranche l'expert en sécurité Michel Junot-Katsuya. Lorsqu'on voit des tueries à répétition aux États-Unis, on se dit qu'ils vont finir par se réveiller, mais non. Le professeur d'histoire et membre associé de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, Francis Langlois, doute lui aussi que la fusillade d'hier change quoi que ce soit au cœur des politiques américaines. Par ailleurs, il souligne que les ventes d'armes à feu ont connu une baisse draconienne depuis l'accession au pouvoir de Donald Trump, farouche défenseur du deuxième amendement de la Constitution. La meilleure menace que le lobby des armes a utilisée à l'époque, elle s'appelait Barack Obama parce qu'il voulait changer les règles. We'll be right back. Le président du Collège des médecins du Québec, Charles Bernard, dénonce les abus des compagnies d'assurance à l'endroit de certains patients qui reçoivent des prestations d'invalidité. Des méthodes qualifiées de harcèlement par des psychiatres qui déplorent leurs effets néfastes sur le rétablissement des patients aux prises avec des problèmes de santé mentale. Certaines compagnies d'assurance exagèrent et font des demandes abusives qui sont intrusives dans la vie des patients, soutient le docteur Bernard. Par exemple, elle demande le dossier d'hospitalisation complet, même s'il n'y a pas de lien avec la maladie. Le patient est pris en otage. S'il n'autorise pas l'accès à son dossier médical, l'assureur menace de mettre fin à ses prestations. Il évoque aussi des demandes exagérées de la part de certaines compagnies, par exemple que le patient voit son médecin chaque semaine, ce qui contribue à engorger le système de santé. Le président du CMQ réagissait à la lettre publiée dimanche dans nos pages par l'auteur Samuel Archibald, professeur à l'UQAM, qui a provoqué un débat sur les pratiques des compagnies d'assurance. Les longues listes d'attente pour passer un examen d'imagerie par résonance magnétique ou de tomodensitométrie, scan, devraient être chose du passé avec l'entente de principe conclue entre Québec et la Fédération des spécialistes du Québec. Québec et les médecins se sont entendus pour augmenter la cadence de ces appareils qui souvent fonctionnent à mi-régime. L'entente prévoit que Québec accordera 60 millions de dollars par année pour des mesures d'accessibilité pour augmenter le nombre de patients traités. Selon les informations obtenues par la presse, l'entente qui pourrait être rendue publique dès demain prévoit que Québec mettra en place un programme pour augmenter la capacité des machines d'imagerie, d'imagerie magnétique, dis-je bien, IRM, et de tomodensitométrie, donc CT scan. Ces appareils, incontournables pour le diagnostic d'une foule de lésions ou de cancers, devraient atteindre 16 heures d'utilisation par jour. L'argent frais ne servira pas à une hausse de tarifs à l'acte, mais couvrira l'augmentation de volume, le nombre d'actes faits. Nouvelle un peu plus réjouissante, puisque c'est assez lourd depuis le début, surtout avec la première nouvelle concernant la tragédie en Floride. Éric Lefebvre, qui représente Arthabaska pour la coalition Avenir Québec, s'est levé au Salon Bleu pour rendre hommage à tous les conjoints et conjointes des élus qui doivent composer avec l'horaire chargé des parlementaires. Il s'est ensuite adressé à sa conjointe Geneviève Laliberté, qui se trouvait dans les tribunes. « Monsieur le Président, je vais déroger au protocole en ne vous adressant pas la prochaine question, mais je vais plutôt l'adresser à ma conjointe, à celle avec qui je veux vieillir et me bercer, en me remémorant de beaux souvenirs », a déclaré Monsieur Lefebvre. C'était jour de la Saint-Valentin, je vous le rappelle, hier. « Geneviève, veux-tu m'épouser ?» L'heureuse élue a d'abord étouffé des larmes de joie. Ça prendrait une réponse à lancer à la blague François Gendron, qui présidait les débats à ce moment. Après quelques instants, elle a dit oui, sous un concert d'applaudissements des députés. Les amoureux, qui se fréquentent depuis 4 ans, se sont ensuite rejoints dans l'antichambre du Salon Bleu pour que M. Lefebvre passe un anneau au doigt de sa dulcinée. L'actrice soupçonnée d'avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump a menacé hier de faire des révélations à la presse, estimant que l'avocat du président américain l'avait de facto délié d'un accord de confidentialité. Tout a commencé le 12 janvier 2018 lorsque le Wall Street Journal a affirmé que Stephanie Clifford, 38 ans, avait été payée pour garder le silence sur une relation sexuelle avec M. Trump alors qu'il était déjà marié à l'actuelle première dame, Melania. Cette relation aurait eu lieu en 2006, 4 mois après la naissance de leur fils Barron. La Maison-Blanche avait démenti ces affirmations, mais l'avocat personnel du président américain a révélé hier lui avoir versé 130 000 $ US de sa poche.
disais comme un mot au milieu d'une foule. Chacun par sa solitude a le cœur qui s'écroule. Comme un inondé par les regards de ceux qui nous aiment. On ne récolte pas toujours les rêves que l'on sème. Déjà quand la vie vient pour habiter ces corps aussi petits qu'inanimés, elle est là, telle une déesse gardienne, attroupant les solitudes par centaines. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui, comme l'enfant, nous tend la main pour mieux tordre le cou. Sachant combien, même géants, tout petits nous sommes. La main de l'autre emmêlée dans la nôtre, le bleu du ciel est plus bleu que celui des autres. On sait comme homme le plus fidèle des apôtres finira par mourir un jour. Amitié pour toujours trouver, et même après une ou plusieurs portées, elle est là qui accourt pour nous rappeler que si les âmes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui, comme l'enfant, nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure la destinée de l'homme, sachant combien, même géants, tout petits nous sommes. Car tel un seul homme, nous avançons vers la même lumière, vers la même frontière. Toujours elle viendra nous arracher la vie, comme si chaque bonheur devait être puni. Sachant combien, même géant, tout petit nous sommes.
Tel un seul homme, chanté par Pierre Lapointe.
En une du devoir, Saint-Valentin meurtrière dans une école secondaire en Floride, le carnage qui a fait au moins 17 morts serait l'œuvre d'un ancien élève. Environnement, la portée du nouveau test climat reste indéfinie. La ministre ignore si Québec pourrait bloquer un projet sur la base de cet examen. Une loi pour forcer le gouvernement à respecter les droits des Autochtones. Livre Frédéric Becbédé et l'immortalité. L'écrivain français enquête dans Une vie sans fin sur l'éventuelle mort de la mort. Et on voit une photo de Frédéric Becbédé, l'écrivain, qui publie donc son 10e roman intitulé Une vie sans fin. Pyeongchang 2018, la fuite. Les Jeux olympiques ont le talent de vous faire prendre conscience du temps qui passe, comme lorsqu'on regarde le surf des neiges en se rappelant nos hasardeuses descentes en Crazy Carpet, la chronique de Jean Dion. Culture, les frères ennemis, comprendre l'autre à travers la réalité virtuelle, la chronique d'Odile Tremblay. Fusillade en Floride, c'est catastrophique, il n'y a vraiment pas de mots à laisser tomber le shérif Scott Israel. L'arrestation de Nicholas Cruz a été captée en direct par plusieurs médias télévisés. Sur les images, on voit plusieurs policiers entourer l'homme vêtu d'une chemise marron. Les images des télévisions locales ont montré plusieurs dizaines de personnes sortant de l'école, souvent les mains en l'air ou croisées derrière la tête. Des ambulances, des camions de pompiers ainsi qu'une longue cohorte de voitures de police et plusieurs véhicules blindés d'un groupe d'intervention étaient stationnés près du lycée. Des élèves ont été évacués par hélicoptère. Le président Donald Trump a été informé de la fusillade dans une école en Floride, a indiqué la Maison-Blanche. « Nous surveillons la situation », a-t-elle précisé. Aucun enfant, enseignant ou quiconque ne devrait jamais se sentir en danger dans une école américaine, a écrit sur Twitter le président Trump. Le drame survenu mercredi est le dernier d'une longue série de fusillades ayant ensanglanté l'Amérique ces dernières années. Il s'agit de la 291e fusillade en milieu scolaire depuis le début de 2013, souligne Shannon Watts, fondatrice de Moms Demand Action for Gun Sense in America, une organisation qui lutte contre la prolifération des armes à feu. La grippe ne capitule pas. Le nombre de cas est encore en hausse. Selon les plus récentes données du Laboratoire de santé publique du Québec, LSPQ, la situation exceptionnelle met les urgences sous pression. L'une d'entre elles a même enregistré un taux d'occupation de 300 % cette semaine. Il s'agit de l'urgence de l'hôpital du Suroy en Montérégie. Toutefois, l'ouverture de cliniques de grippe n'est pas encore mise en branle. L'indice d'activité grippale mercredi était élevé avec tendance à la hausse. La grippe A, H3N2 et la grippe B circulent toujours simultanément. Le Laboratoire de santé publique du Québec a enregistré presque autant de cas de grippe B que de grippe A pour la semaine se terminant le 10 février, alors que la grippe B survient habituellement plus tard en saison. Il n'y a aucun signe de ralentissement, s'exclame l'épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, Gaston Deserre. La semaine dernière, 37 % des prélèvements faits chez des patients avec des symptômes se sont avérés positifs pour la grippe A ou B. Une fois le plateau atteint, la courbe prendra autant de temps à descendre qu'elle en a pris à monter, explique le docteur Deserre. Cela signifie que le Québec doit se préparer à affronter encore 6 à 8 semaines au moins d'activité grippale élevée. Une loi pour forcer le gouvernement à respecter les droits des Autochtones, Justin Trudeau ne devra pas décevoir l'espoir qu'il suscite, prévient Roméo Saganache. Le gouvernement Trudeau veut fondamentalement transformer la relation du fédéral avec les communautés autochtones du pays en enchâssant dans un cadre légal le respect de leurs droits ancestraux et l'obligation pour Ottawa de les consulter. Mais pour l'instant, il n'offre pas plus de détails, ne voulant pas présumer de l'encadrement dont souhaiteront se doter les Premières Nations du pays. Pour réellement renouveler la relation entre le Canada et les Premières Nations, pas seulement aujourd'hui, mais pour les 150 prochaines années, il nous faut modifier de façon pan-gouvernementale notre façon de faire les choses, a fait valoir le premier ministre Justin Trudeau dans un discours aux communes mercredi. Le néo-démocrate Roméo Saganache a salué les intentions du gouvernement, mais il a prévenu qu'il ne tolérerait pas que le changement promis ne se concrétise pas. International, les alliés de l'Irak se sont engagés mercredi au dernier jour d'une conférence internationale au Koweït à mobiliser 30 milliards de dollars pour reconstruire ce pays ravagé par 3 ans d'une guerre dévastatrice contre le groupe État islamique. Si le pays hôte a exprimé sa satisfaction au terme de ces 3 jours de conférence, ce montant reste toutefois éloigné des besoins chiffrés par Bagdad à 88 milliards lors de la journée d'ouverture. Sur cette somme, 22 milliards de dollars représentent des besoins à court terme, avaient souligné lundi les responsables irakiens. Malgré une victoire de l'Irak sur le groupe EI, la menace d'attentat n'a pas pour autant disparu. Des milliers d'infrastructures sont détruites et 2,5 millions de personnes déplacées. Réputé indéboulonnable, le président sud-africain Jacob Zuma a mis fin au suspense en annonçant mercredi sa démission, épilogue d'un combat féroce avec la direction de son parti, le Congrès national africain, qui a plongé tout le pays dans la crise. « J'ai décidé de démissionner du poste de président de la République avec effet immédiat, même si je suis en désaccord avec la direction de mon organisation », citation de l'ancien chef d'État zimbabwéen, Jacob Zuma. Vous êtes à l'écoute de l'émission Revue de presse intitulée « Le quotidien des quotidiens ». Hélène Denis qui vous accompagne, restez avec nous.
Thank you.
Chantal Archambault et sa chanson « Les détours ».
Au moins 17 morts en Floride, terreur à l'école. Toujours en une du Journal de Montréal, après les menaces, l'arme de bronze pour Boutin, Kim Boutin. Utilisées par la pègre, les deux Québécoises accusées de trafic de cocaïne en Australie étaient les pions d'une vaste organisation criminelle. Carnage à la Saint-Valentin dans une école, les jeunes ont été piégés par un tueur qui a déclenché une alarme et les a attendus à la sortie des classes. Un jeune homme a terrorisé les membres de son ancienne école secondaire de la Floride en y tuant au moins 17 personnes. L'auteur de l'une des pires fusillades des 25 dernières années, Nicholas Cruz, est un ancien étudiant de 19 ans renvoyé de l'école Marjorie Stoneman Douglas pour des raisons disciplinaires. Il a été arrêté environ une heure plus tard alors qu'il aurait tenté de se mêler à la foule pour s'échapper, selon CNN. Affublé d'un masque à gaz et équipé de grenades fumigènes, ainsi que de plusieurs chargeurs, le suspect a déclenché l'alarme d'incendie avant de tirer avec un AR-15, une arme qui a été utilisée lors de plusieurs autres fusillades. Les enfants sortaient donc des salles de classe et c'est là que le carnage a commencé, a relaté sur les ondes de CNN le sénateur de la Floride, Bill Nelson. Les victimes comprenaient des élèves et des adultes, a déclaré le shérif du comté de Broward, Scott Israel. 12 personnes sont décédées à l'intérieur de l'école, tandis que 3 sont mortes à l'extérieur. 2 ont succombé et leurs blessures à l'hôpital. Une Chinoise qui ne voulait pas quitter son sac à main lors d'un contrôle à l'entrée d'une gare l'a suivie à l'intérieur d'un scanner à bagages, devenant la risée des internautes. Une vidéo montrant la silhouette de la femme apparaître sur l'écran de contrôle de la machine à rayon X est devenue virale sur l'Internet chinois. Sur les images tournées dimanche, on voit la voyageuse se mettre à genoux sur le tapis roulant du scanner, puis ressortir par l'autre bout de l'appareil devant des passagers interloqués. Et une photo à l'appui dans le Journal de Montréal, en page 6, tout près de la chronique de Richard Martineau, intitulée « Je suis une patente ». Producteurs ont finalement conclu des ententes avec la Société des alcools du Québec, la SAC, pour lui fournir le cannabis qui sera vendu aux Québécois. 3 de ces producteurs ont des installations au Québec. Parmi eux, un seul a son siège social dans la province, soit Hydropothecary à Gatineau. C'est d'ailleurs ce dernier qui obtient la plus grosse part du gâteau et fournira 20 000 kg de pot à la SAC la première année. Alors, j'imagine que ça se prononce plus « hydropothecary ». Donc, la Société d'État a estimé de façon préliminaire ses besoins à 50 000 kg, a précisé la porte-parole Linda Bouchard. « Le taux de diplomation a franchi la barre des 80 % pour la première fois. Le taux de diplomation des élèves québécois a franchi la barre des 80 % a appris le Journal de Montréal. La hausse est même quatre fois plus importante chez les garçons qui sont plus nombreux à terminer leur secondaire. L'aiguille bouge dans le bon sens, lance Égide Royer, professeur en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Monsieur Royer a toutefois été beaucoup plus étonné de constater que ce sont les garçons qui sont responsables de cette augmentation. Le taux de diplomation chez les filles est passé de 83,9 % à 84,4 en un an, alors que dans les rangs des garçons, il est passé de 73,8 % à 75,8 %. C'est une belle surprise, il se passe quelque chose, lance-t-il. De son côté, Michel Perron, professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi, et expert en matière de décrochage scolaire, estime que cette excellente nouvelle s'explique par les efforts combinés de tous les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes. Montréal paiera 5,3 millions pour la location de 10 super souffleuses qui l'aideront à entreposer la neige dans ses deux sites temporaires pour le reste de l'hiver. Ces souffleuses à haute puissance permettront de souffler la neige beaucoup plus haut et de maximiser ainsi la capacité des sites d'entassement. Elles pourront aussi, au besoin, prêter main forte aux équipements des autres sites de dépôt à neige permanent. Les entreprises qui louent les 10 souffleuses facturent de 750 $ à 1100 $15 par heure par appareil. Montréal tente de trouver des solutions pour faire face à la quantité exceptionnelle de neige tombée depuis le début de l'hiver. À ce jour, deux sites de dépôt de neige ont été fermés et six autres sont presque au maximum de leur capacité. Les trains de banlieue ont été en retard 1867 fois en 2017. Le retard moyen de 16 minutes est long, avec le risque de rater une correspondance. Les usagers des trains de banlieue ont attendu plus souvent en 2017, alors qu'il y a eu 20 % plus de retard qu'en 2016. La ligne de montagne la plus achalandée du réseau a été particulièrement affectée. Le réseau de transport métropolitain devrait s'inquiéter. Quand vous offrez un service de transport en commun, le premier critère est la ponctualité, dit la professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal, Florence Jonca-Adenau. Plus du quart des retards ont été causés par les infrastructures l'an dernier, ce qui comprend entre autres les bris de rails, les aiguillages gelés en hiver et les défectuosités au passage à niveau. Denis Allard affirme également que l'entretien des voitures de trains électriques de la ligne de Deux-Montagnes, qui a subi près de 50 % plus de retard l'an dernier par rapport à 2016, a été négligé dans les dernières années. Le directeur général des opérations du RTM, Stéphane Lapierre, a indiqué que la remise à neuf des voitures de la ligne de Deux-Montagnes a été abandonnée en raison de choix imposés avec l'arrivée sur cette ligne du réseau express métropolitain en 2021. Et c'est la fin du purgatoire pour la haute fonctionnaire Dominique Savoie, qui servira sous les ordres de Pierre Moreau au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Madame Savoie a fait la manchette en 2016 à la suite de révélations de l'analyste Annie Trudel, qui avait été embauchée par l'ancien ministre des Transports Robert Poitiers pour faire la lumière sur des irrégularités au MTQ. En mai 2016, le premier ministre Philippe Couillard avait annoncé que la sous-ministre du MTQ était démise de ses fonctions à la suite du témoignage de Mme Trudel et de la vérificatrice Louise Boilly. En mars 2017, le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne pas porter d'accusation à la suite d'allégations de production de faux documents et d'intimidation qui visaient Mme Savoie et d'autres hauts fonctionnaires du MTQ. Mme Savoie se retrouvera ainsi, à compter du 19 février 2018, sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Tremblay et sa chanson « Aurait-il plu » que l'on retrouve sur son album « À la manière des anges ».
Les journaux régionaux. Air Canada Rouge pour Québec-Toronto, c'est dans le soleil, Annie Morin. Air Canada change de fournisseur et d'appareil pour la desserte entre Québec et Toronto à prix le soleil. À partir du 1er juillet, le service sera offert par sa filiale Rouge au lieu du sous-traitant Jazz. Le nombre de vols baissera, mais la taille accrue des avions permettra de maintenir une capacité équivalente et d'ajouter au confort. Le nombre de lits permanents limité à 140, c'est dans le droit, Daniel Leblanc. S'il voit le jour comme prévu, le nouveau refuge de l'Armée du Salut, dans le secteur Vanier, pourra contenir un maximum de 140 lits permanents entre ses murs. La motion à ce sujet présentée par l'élu Mathieu Fleury a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal mercredi. Il y a 3 semaines, le conseiller de Rideau Vanier avait promis de rectifier le tir car une première version du règlement présenté par l'administration municipale faisait uniquement mention de la superficie maximale 801 mètres carrés que doit occuper la section refuge au sein du complexe multifonctionnel de 9500 mètres carrés. Nulle part on n'y faisait allusion au nombre maximal de lits. Quand le feu vert a été donné pour le changement de zonage en novembre, le conseiller a convenu que l'organisme ne pouvait exiger un autre changement de zonage pour un agrandissement sans d'abord s'adresser au conseil. M. Fleury ne cache pas sa satisfaction face à l'ajout de cette règle très importante à ses yeux, mais il réitère que l'objectif ultime est que la décision du conseil soit infirmée. En premier lieu, je veux réaffirmer que je pense que l'on va gagner en tant que communauté devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario, CAMO. Si jamais on ne gagne pas, c'est important pour nous d'améliorer le projet et l'une des étapes principales, c'est de protéger les limites de ce qui pourrait y avoir comme refuge. Moi, je vais sourire quand on va gagner à la CAMO. Je l'ai dit plusieurs fois à la décision politique et là, on va voir ce qui va se passer au niveau légal, soutient-il. L'organisme se serait dit en accord avec la motion limitant à 140 le nombre de lits, mais affirme que ce seuil peut être surpassé dans des situations d'urgence. L'homme d'affaires et leader de SOS Vanier, Drew Dobson, estime que la motion part d'une bonne intention, mais que la ville aurait pu aller plus loin. La façon dont a été écrite la motion, elle n'a pas de mordant. L'armée du salut peut changer d'idée n'importe quand, et selon le règlement d'urbanisme, elle pourrait avoir jusqu'à 228 lits sans l'approbation de quiconque. Ce qui me préoccupe, ce sont les lits permanents du refuge. Mais c'est certain que durant une nuit d'hiver où il fait moins 25, personne, y compris les gens de Vanier, ne veut voir quelqu'un être frigorifié dehors. Je ne m'oppose pas à cela, dis-je bien. Et dit-il. Rappelons que l'Ombudsman de l'Ontario a aussi été interpellé dans le dossier du déménagement de l'Armée du Salut à Vanier. Un article écrit par Carl Tardif du Soleil et par Jonathan Hudon du quotidien Le rêve brisé de Baptiste Brochu. Il s'agissait probablement de la plus belle journée depuis le début des Jeux olympiques. Soleil de plomb, ciel d'un bleu éclatant. Mais pour Baptiste Brochu, elle s'avérait l'une des plus sombres de sa carrière. Victime d'une fracture au tibia de la jambe gauche, l'athlète de la baie a été forcé de délaisser sa planche pour des béquilles, ratant ainsi sa seule épreuve olympique. L'émotion était palpable dans le clan saguenéen. Quelques heures plus tôt, son père avait dévoilé sur sa page Facebook que le rêve olympique de son fils venait de s'envoler. Tout s'est passé à sa deuxième descente d'entraînement mercredi. Inspiré par celle de la veille où il avait réussi le temps non officiel le plus rapide, Brochu était rempli de confiance. Puis, bang! Je suis allé trop loin sur un saut et j'ai atterri à plat. J'avais juste un peu de survitesse. Ça a été fatal finalement. Je suis tombé sur le dos, j'ai enlevé mes fixations, marché le long du parcours. Avec l'adrénaline, ça ne faisait pas trop mal, mais lorsqu'elle a arrêté de couler, la douleur était assez extrême, racontait le planchiste de 23 ans rencontré en point de presse au bas de la piste du parc à neige Phoenix de Bok Wang avant l'épreuve de Snowboard Cross. Jusqu'à son réveil jeudi, heure de Corée du Sud, il gardait l'espoir de pouvoir y prendre part, même s'il connaissait déjà le diagnostic révélé par des radiographies et une imagerie par résonance magnétique. Sur le coup, je l'ai senti, mais je pensais que c'était le péroné. Finalement, je me suis fissuré le tibia à deux endroits. J'avais de l'espoir jusqu'à ce matin, mercredi soir au Québec, mais j'ai revu les médecins qui m'ont dit que ça n'avait pas de bon sens de courir. En plus, pour ma sécurité et ma santé, c'était mieux que je ne cours pas parce qu'avec les impacts qu'il y a dans le parcours, ça peut finir en opération. Vert fumé au visage, Brochu semblait en paix, même si la douleur est à la fois physique et intérieure. C'est beaucoup d'émotions. Je suis un peu plus serein là, mais hier, je ne l'étais pas du tout. J'ai passé l'une des pires journées de ma vie, mais l'avenir peut me réserver de meilleures choses que ça, espérait celui qui aura besoin de 8 semaines pour se remettre de sa blessure. Dans la tribune Mélanie Noël, les Jeux de Sherbrooke sont de retour. La ville de Sherbrooke présentera la deuxième édition de ces Jeux de Sherbrooke les 2 et 3 mai. Ce grand événement sportif participatif destiné aux élèves de 6e année aura lieu sur 6 plateaux sportifs du territoire. Cette année, 1736 jeunes y sont attendus. Au total, 41 écoles de la commission scolaire de la région de Sherbrooke et de la commission scolaire Eastern Township, ainsi que des écoles primaires, privées, ont accepté de se joindre aux Jeux de Sherbrooke. Les jeunes seront invités à essayer 3 sports parmi les 33 disciplines qui leur seront proposées. Au centre de foire de Sherbrooke, les élèves auront accès à 7 disciplines, l'haltérophilie, le vélo, le tennis de table, la boxe, le biathlon, le tir à l'arc et l'escrime. Quant à l'Université de Sherbrooke, elle offrira de l'athlétisme, du judo, du kinball, du tennis, de la nage synchronisée, de la natation, de la danse hip-hop, du karaté, du baseball, du handball et du triathlon. C'est au centre multifonctionnel Roland Dussault et à l'aréna Eugène Lalonde que les participants et les participantes pourront jouer au soccer, à l'ultimate, au rugby, au football et faire du patinage de vitesse. Du côté du cégep de Sherbrooke, ce sont le volleyball, le badminton, les sports de rame et l'escalade qui tenteront de séduire les élèves participants, tandis qu'à l'édifice Serras, la gymnastique et le cheerleading seront à l'honneur. Enfin, à l'Université Bishops, les jeunes sportifs et sportives pourront pratiquer le basketball, la crosse, le gumboot et le patinage artistique. Pour mener à bien ces 2 journées d'activité, la ville de Sherbrooke est à la recherche d'une 30aine de bénévoles. Le travail de ces bénévoles consistera à accompagner une classe de 23 à 30 élèves entre 8h et 14h afin de s'assurer que l'horaire prévu soit bien respecté. Il est à noter qu'un repas sera fourni pour le dîner. Les gens intéressés peuvent offrir leurs services en communiquant avec les Jeux de Sherbrooke à jeuxdesherbrooke@ville.sherbrooke.qc.ca. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble dans le cadre de cette émission. Le quotidien des quotidiens, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous. Après la chanson, il y aura entre autres les actualités culturelles et je vous lirai un texte concernant un concert donné par l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano. Un concert qui aura lieu dans le noir total.
J'entrais chez moi et j'étais fatigué quand j'ai poussé la porte, quand j'ai poussé la porte. Mon coin et mon journal, des gestes usés, réflexes machinales, mais la contre-jour est apparue et m'a dit, tu pourrais dire bonjour. Moi je me disais, hey Joe, faudrait pas y aller tout de go si tu fais le saut. Juste un mot de trop. Mais j'ai joué au black jack comme quand j'ai tiré ma carte. Mes clics et mes claques et la porte qui claque. Elle boudait dans la cuisine, le nez plongé au fond d'un magazine. Un truc très compliqué, un genre de test de compatibilité. Dans mes plombs pétés, je mords le fer de la pomme. Je mets en usine des mots qui assassinent et des phrases qui assomment. Elle m'a dit, je suis pas prêt d'oublier, bonhomme. Tout en me répétant, hey, Joe, fallait pas y aller tout de go. Quand t'as fait le saut, juste un mot de trop. Mais j'ai joué au black, jack. Comme quand j'ai tiré ma carte, mes clics et mes claques, et la porte qui claque. Hey! lac. Et je sors dans le soir, juste un mot et me voilà seul. J'arrive pas à y croire, un monde trop et c'est le deuil. J'aurais dû fermer ma gueule.
Hey, Joe, fallait pas y aller tout d'un coup. Quand t'as fait le saut, juste un mot de trop.
Mais j'ai joué au black,
Jack,
Jack. Comme quand j'ai tiré ma carte. Mes clics et mes claques, et la porte qui claque, et la porte qui claque. Je marche sous une pluie d'automne, le diable rit et l'ange me sermonne. Pendant que je me raisonne, pendant que je me raisonne. Et c'est pas évident, ça m'arrive, je sais pas pourquoi. C'est souvent plus fort que moi. Wap, un trou, une cheville, une feuille, une chenille. Et mes excuses qui s'envolent et s'éparpillent dans le vent. Juste un mot de trop. Juste un mot de trop.
Et voilà, c'était le titre de cette chanson, Juste un mot de trop, chantée par Luc de la Rochelière.
Concert à l'aveugle de l'OSM plongé dans le noir, éclairé par le son. L'idée de ce concert à l'aveugle est éclairante, maximiser l'expérience sonore en éliminant toute distraction visuelle. Sous la direction de Kent Nagano, l'OSM et les solistes invités Steve Hill, guitare électrique, Olga Gross, piano, Racham Allwood, orgue, André Moisan, clarinette, seront dissimulés derrière un rideau opaque. Demain soir, l'auditoire sera plongé dans l'obscurité. La musique deviendra la seule source d'information à absorber. C'est un article d'Alain Brunet dans la presse pour amorcer les actualités culturelles. Un programme composite en étoffera le ressenti, furieux mélange de styles rock, baroque, romantique et contemporain. Comment au juste faire cohabiter Gyorgy Ligeti, Caroline Stockhausen, Jean-Sébastien Bach, Richard Strauss, Jimi Hendrix, Frank Zappa et John Anthony Lennon. La musique de Frank Zappa peut être considérée comme une transition, un pont entre le classique et le rock. Les autres compositeurs au programme ont aussi été choisis pour cette fluidité entre les deux univers, soutient le maestro Nagano, interviewé hier au sortir d'une répétition. Dans les années 60, reprend-il, Stockhausen était professeur invité à l'Université de la Californie. Il était devenu un artiste culte, une véritable inspiration contemporaine pour la communauté rock de San Francisco. Jefferson Airplane, Grateful Dead, etc. C'était pareil pour Ligeti. L-I-G-E-T-I. Pardon?
Je dirais peut-être Ligeti.
Ligeti, ben oui, c'est accepté. Alors, c'était pareil pour Ligeti, alors invité à l'Université Stanford. Énorme impact sur la musique populaire dans la région. On a tendance à oublier que sa musique fut jouée dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, tout comme celle de Richard Strauss. fluidité entre les mondes du rock et de la musique contemporaine, mais encore ceux du baroque et du classique. Dans la Californie natale de Kent Nagano, Bach et Beethoven ont joui d'un indice élevé de coolitude. Dans les années 60 et 70, raconte le chef d'orchestre, il était très à la mode de porter des pulls à l'effigie de Beethoven. Durant cette même période, E. Power Biggs remplissait des stades et interprétait à l'orgue fantaisie chromatique et fugue en ré mineur de Bach, très prisé des Californiens férus de concerts rock. Et saviez-vous que Phil Lesh, bassiste de Grateful Dead, savait tout sur Beethoven? Kent Nagano rappelle en outre qu'il a déjà dirigé et enregistré Mo and Herb's Vacation, œuvre de Frank Zappa pour clarinette et orchestre, avec le London Symphony Orchestra. Amitié, admiration et collaboration tardive, souligne le musicien. Horrifié par les Mothers of Invention en les voyant à la télévision, ma mère avait interdit Zappa à la maison. Ayant obéi à cette interdiction, je ne l'ai vraiment découvert que plus tard, soit en visitant Pierre Boulez à l'IRCAM à Paris. J'ai réalisé qu'il avait entrepris de diriger une œuvre de Zappa. Étonné, j'ai ensuite contacté Zappa lorsque je suis rentrée en Californie. Il m'a alors invité à son concert, le premier concert rock de ma vie, dit Kent Nagano. Ainsi, Nagano avait pénétré dans ce domaine foisonnant et ludique qu'il évoquera demain avec une improvisation du clarinettiste André Moisan, inspirée de Mo and Herb's Vacation. Quant à Purple Haze, fameux hymne de Jimi Hendrix, Nagano l'a découvert à travers la fameuse relecture du Kronos Quartet, quatuor à cordes duquel il se dit encore très proche. En hommage au Kronos et indirectement à Hendrix, indique-t-il, j'ai choisi un arrangement libre et souple pour les cordes de l'OSM qui peuvent exprimer bien des choses au-delà du répertoire classique. Cela posé, le maestro de l'OSM se défend de faire dans la nostalgie des années 60 une décennie où tout n'était pas particulièrement beau. Assassinat de Martin Luther King, lutte pour les droits civiques, guerre du Vietnam, etc. Nenni, la nostalgie donc, voilà qui justifie la création d'une œuvre pour guitare électrique et orchestre signée John Anthony Lennon, The Electric Candlelight Concerto. Dans les années 80, mon ami David Harrington, directeur artistique du Kronos Quartet, l'avait identifié parmi les jeunes compositeurs émergents. Ce qui m'avait d'abord frappé dans sa musique, c'est qu'il n'y avait pas de grande rupture avec l'esthétique et la grande tradition européenne. Or, il fut moins visible par la suite, ayant choisi une carrière parallèle dans l'enseignement. Maintenant qu'il est professeur retraité, John Anthony Lennon se réinvestit à fond dans la composition. Guitar hero de la scène blues rock, le Québécois Steve Hill sera le soliste invité à la création mondiale de cette œuvre. Interviewé cette semaine, il y voit le plus grand défi de sa carrière en tant qu'interprète. « Lorsqu'on m'a approché, raconte-t-il, le cinquième mouvement n'était pas terminé. Je l'ai reçu en juin dernier et je le répète depuis. C'est contemporain, c'est complexe. Je sais lire la musique. J'ai reçu une formation musicale, mais de manière générale, j'écris des chansons. J'accompagne des gens. Je construis ma musique sur des progressions d'accords. Je n'ai pas à lire des partitions de ce type, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de travailler. Mais ça s'en vient. On comprendra que Steve Hill a dû redoubler d'efforts afin de maîtriser cet Electric Candlelight Concerto en 5 mouvements, 3 pour guitare électrique et 2 pour guitare acoustique. Il y a quelques jours, j'ai eu une rencontre avec M. Nagano qui battait la mesure pendant que j'exécutais l'œuvre. Une expérience de grande humilité, rire entre parenthèses. Je m'étais habituée à la jouer avec un accompagnement préenregistré. Jouer avec cette main qui m'indiquait où j'étais rendu, pas évident. Heureusement, on m'a beaucoup aidé à l'OSM. Pour mieux saisir la partition, j'ai répété avec Adam Johnson, le chef assistant de l'orchestre. Ça m'a vraiment donné confiance. L'œuvre laisse-t-elle place à une part d'improvisation pour le guitariste rock? Dans le dernier mouvement, le compositeur m'autorise à improviser à la place de certaines lignes, mais il serait peut-être plus sage de m'en tenir à la partition. Je ne suis pas là pour faire un Steve Hill de moi, rire, mais je jouerai le tout à ma façon. Le plus important de toute manière est de rendre justice à la partition. Quant à l'obscurité annoncée à cette soirée de demain, le maestro Nagano explique son choix. Lors d'une rencontre de planification relative, on se disait qu'il fallait à la musique classique plus de visualisation, plus d'images projetées derrière l'orchestre, plus de films, plus de vidéos, etc. J'ai eu alors la réaction inverse. Sans images, la musique classique peut aussi nourrir l'imagination. Lorsque j'étudiais, je m'enfermais avec mes confrères dans la salle d'écoute de la bibliothèque. On éteignait les lumières, on écoutait la musique. Ça provoquait des images fantastiques. Alors, le concert dans le noir a lieu demain, 21h, à la Maison symphonique. Alors, une nouvelle d'un bébé à venir. Kim Lévesque-Lisotte a annoncé sur son compte Instagram qu'elle est enceinte de son premier enfant. En couple avec Éric Bruneau depuis 5 ans, l'humoriste et auteur de la série Les Simones lui a écrit ce message. « L'aspect vertigineux de te savoir dans ma vie pour toujours m'emplit de joie. La réalisation d'enfanter par simple désir amoureux me réjouit à chaque seconde qui passe. Je ne voulais pas d'enfant par simple désir de me reproduire. Je voulais un enfant de nous, un être que je chérirai autant que j'ai chéri mon amour pour toi », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.
I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky, flash, bang, alakazam, wonderful. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view, flash, bang, alakazam, I got a look at you. One look and I yelled, timber, watch out for flying glass. 'Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit.
This is it. This is it,
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam, alakazam,
out of an orange-colored sky. One look and I yell, timber, watch out for flying glass. 'Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit.
This is it, I-T-it.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam,
alakazam, out of an orange color, purple stripe, pretty green polka dot sky.
Flash, a bam,
alakazam, and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
Et voilà Nat King Cole et sa chanson Orange Colored Sky.
Sujet libre, je vous avais lu la chronique « Une décision d'assureur » de Patrick Lagacé numéro un, mais je ne savais pas qu'il y aurait une suite. Il y en a une, et c'est ce matin que c'est à la une de la presse, donc une décision d'assureur, entre parenthèses, deux. Samuel Archibald a ouvert une brèche dans un barrage de douleur quand il a dénoncé son assureur Desjardins dans la presse plus dimanche. Il a libéré une parole. J'ai chroniqué le lendemain sur le bras de fer absurde qu'il mène face à Desjardins alors qu'il souffre d'une dépression. Un torrent en réaction. J'ai reçu au bas mot 200 courriels dans les jours qui ont suivi, autant de témoignages qui disaient « moi aussi ». Il disait « moi aussi j'ai dû me battre contre mon assureur, monsieur le chroniqueur ». Il disait « je me reconnais tellement dans ce que Samuel Archibald a écrit ». Ils m'ont raconté les prétextes farfelus invoqués par les assureurs pour leur refuser une indemnisation. Ils m'ont raconté les appels incessants de l'assureur sous prétexte de prendre des nouvelles, une tactique qui ressemble plus à des pièges tendus aux assurés. Diane C. À tous les 15 du mois, je recevais un appel de ma gestionnaire de cas. Elle me demandait quand je revenais de travail, quand je revenais travailler, comment j'allais. Je savais que tout ce que je disais pouvait être retenu contre moi, que si je disais que j'allais mieux, on allait me couper. Diane C. avait raison d'être parano. Ce genre d'appel est conçu, selon les témoignages recueillis, pour utiliser les mots de l'assuré contre l'assuré. Ève C., en congé de maladie pour burn-out, l'a vécu à ses dépens. « J'ai fait l'erreur de leur dire que je prenais un nouveau médicament qui me faisait du bien, qui me donnait de l'énergie. La gaffe. » Gaffe? L'employé de l'assureur a noté qu'Ève allait bien. Or, bien, ça s'est traduit en guéri aux yeux de l'assureur. Tu vas bien, tu peux travailler. Ses prestations ont été coupées. Ève a protesté, pleuré, imploré. Rien à faire. Je ne peux pas travailler. Je suis même pas capable d'aller prendre une marche. La décision a été prise. Ai-je des recours? Porter plainte à mon supérieur. Net, fret, sec. Quand on est dans cet état-là, on n'a pas l'énergie pour se battre. Ça fait un an. Ève est retournée travailler. De corps. Elle est présente au bureau. Seulement de corps. Transiger avec un assureur peut être un voyage en Absurdistan. Ne riez pas en lisant ce témoignage de Karine O. Même hospitalisée, les assurances n'ont pas voulu m'indemniser en prétextant que j'étais tout de même apte à un emploi rémunérateur. Ce à quoi j'ai répondu « Que voulez-vous que je fasse comme travail à partir d'un lit d'hôpital? Des appels érotiques? » Et l'assureur de me répondre « Ce n'est pas à moi de vous le dire, madame. » J'écrivais lundi que dans le cas de Samuel Archibald, c'est comme si l'assureur guettait, espérait un prétexte pour nier toute couverture. Les témoignages d'Ève et de Diane en recoupent plein d'autres sur les prétextes douteux invoqués par des assureurs pour nier une couverture. Les assurés se font piéger. Mais leur médecin aussi, comme Pascal L. qui m'a écrit ceci. J'ai commis l'erreur d'écrire dans le dossier que ma patiente allait mieux quand ses idées suicidaires se sont tassées. Mais ce n'est pas parce qu'on ne pense plus à se jeter en bas d'un pont 24 heures sur 24 qu'on est prêt à travailler 40 heures par semaine. Pas grave, l'assureur a cessé les prestations d'invalidité à partir de la date où le médecin a noté ces mots dans le dossier de sa patiente. J'ai eu beau leur écrire et leur parler au téléphone pour expliquer qu'à mon avis, cette patiente n'était pas apte à retourner au travail, rien à faire. Ça m'a dégoûtée profondément. Ma patiente a finalement dû les poursuivre pour obtenir un règlement à l'amiable. Prendre un avocat et poursuivre, tous y ont pensé quand l'assureur leur a dit que leur couverture était révoquée. Mais souvent, l'énergie n'y est pas. Brigitte P. travaille en ressources humaines. Elle fait de la gestion d'invalidité. Elle a eu ce conseil pour Samuel Archibald. Qu'il mette un avocat dans le dossier et Desjardins va peut-être tout d'un coup prendre une décision différente. C'est ce qui est arrivé dans le dossier de France V. Frappée par une dépression majeure, confirmée par son médecin de famille et un psychiatre payé par l'assurance maladie, l'assureur lui a refusé une couverture sur la foi d'un diagnostic divergent émis par un psychiatre, payé par l'assureur. La compagnie d'assurance l'a appelé et lui a donné 24 heures pour accepter l'offre suivante. 3 mois de prestations, offre finale, après, tu ne nous achales plus. Je ne pouvais même pas consulter mon médecin. Finalement, une amie avocate de France V a envoyé une mise en demeure à l'assureur qui a avalisé l'avis des médecins de la dame, retour progressif. On peut dire qu'elle a gagné, mais la victoire l'a stressée au cube. Après ma chronique sur Samuel Archibald, quelques schtroumpfs à lunettes m'ont écrit pour me faire la leçon. « Ah, monsieur le chroniqueur, les gens doivent lire leur police d'assurance en détail. Je dis qu'outre les cas de grossière négligence et de fraude, il y a un bug majeur dans cette jérémiade. Je note que les assureurs ont comme la fâcheuse tendance à interpeller les dites polices comme ils le veulent. Prenez le cas de l'ingénieur forestier Ken Dubé. Devenu malade des suites de harcèlement psychologique, il a vu son assureur lui refuser des indemnités sous prétexte que l'arrêt de travail n'était pas lié à sa condition médicale, mais à des problèmes dans son milieu de travail, comme si l'un n'était pas tributaire de l'autre. Le juge a tranché en faveur de M. Dubé en novembre dernier dans une décision qui a renvoyé la compagnie d'assurance à ses devoirs, en plus de la condamner à verser 10 000 $ à son assuré. Son motif de refus, a écrit le juge Patrick Théroux, ne cadre pas avec le critère de l'invalidité que la police l'oblige à couvrir. On penserait qu'avec l'expérience et ses avocats, l'assureur saurait comment interpréter ses polices d'assurance. Non, DH n'est pas malade, son conjoint l'est, et il s'est fait refuser une indemnité par l'assureur. Le bras de fer contre deux assureurs, hypothécaires et collectifs, a été épuisant, et DH a vu dans les tactiques subies par son chum une méthodologie, une approche systémique du monde de l'assurance. 5 ans que ça dure, et la lumière, on la voit. Le bout du tunnel approche. La chance, elle est venue sous la forme d'un héritage inattendu. Ça nous a permis d'engager un avocat compétent et de poursuivre les compagnies pour bris de contrat, dit DH dans son témoignage. Un règlement approche, dit-il, et c'est pourquoi DH ne me dit pas le nom des compagnies d'assurance impliquées. Jean T. de Trois-Rivières garde un mauvais souvenir des demandes de son assureur pour des expertises et des formulaires à faire remplir par des médecins, un job à temps plein. J'ai dû passer par l'ombudsman de la compagnie d'assurance pour établir les faits. Il s'est donc battu en pleine dépression. Diane C. a cette formule terrible pour décrire le bras de fer qu'elle a livré à l'assureur, de chèques coupés en appel, en invalidité niée, en appel répété de la gentille dame de l'assureur. Faut être aussi performant dans la maladie que dans le travail. Ce ne sont que quelques cas que je vous raconte là. Il y en a d'autres, plein d'autres. Samuel Archibald est la pointe d'un iceberg de souffrance et d'injustice dont je ne soupçonnais pas l'envergure. Lunch santé de la distributrice. Une distributrice offre généralement des chips, des sandwichs et d'énormes galettes. À la gare centrale de Montréal depuis novembre, la machine Portion propose d'alléchantes salades et des parfaits en pot. Deux autres distributrices Portion sont installées à McGill, à la bibliothèque Redpath et au pavillon de sciences médicales McIntyre. C'est dans la presse, Marie Allard qui signe le texte, c'est Ryan Hotman, un entraîneur sportif qui a eu l'idée de vendre des repas santé après avoir constaté que les efforts de ses clients étaient minés par leur alimentation sur le pouce. Avec son père Aaron, il a conçu des repas nutritifs vendus en épicerie. Comme les profs étaient minces, le duo a décidé de proposer ses recettes sans intermédiaire dans des machines. Au départ, je n'étais pas chaud à l'idée des distributrices, dit Aaron Hutman, copropriétaire de Portions. Je constate maintenant qu'elles ont plein d'avantages, notamment le fait d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours des « cochonneries » entre guillemets dans ces machines, puisque ce sont des produits faits pour durer 6 mois. Comme dans tout, il faut du changement. Aujourd'hui, les gens sont prêts à y trouver des mets nutritifs servis dans des beaux pots de plastique recyclables, dit M. Hotman, copropriétaire de Portions. Comment ça marche? Une fois devant la distributrice, un grand écran permet d'explorer le menu qui comprend des salades, du chili, des petits contenants de protéines, poulet, thon, œufs durs, cuits, des collations et des parfaits au yogourt grec. Une fois son choix fait, on paye par carte et le bocal désiré tombe dans la machine. Rencontrée à la gare centrale, Manon Moras et Martine Paquin est intriguée par la distributrice. Est-ce que c'est frais, ont-elles demandé? On trouve ça cute, a commenté Mme Paquin. C'est pratique pour les gens qui vont prendre le train, a ajouté Mme Moras. C'est fait pour être mangé dans le pot, explique Aaron Ottman. La vinaigrette est dans un petit contenant à part, ce qui fait que le client contrôle la quantité qu'il veut mettre. Il suffit d'assaisonner, de refermer le couvercle et de secouer le pot pour mélanger la vinaigrette avant de déguster. Alors, j'y reviendrai puisque la presse a testé une salade asiatique payée 9,99 $ plus taxes. Petit hic, il n'a pas été possible d'avoir un reçu par courriel et les fourchettes de plastique n'étaient pas emballées, mais il semble que c'était bon. Ils ont passé un bon moment, ceux qui l'ont testé. Merci, c'est tout pour le quotidien des quotidiens. À venir, les paractualités. Merci, Mathieu Tessier.